photo. Une photo que vous connaissez forcément parce qu'elle a été vue et revue, lue et relue, parce qu'elle a été autant admirée qu'instrumentalisée. Une photo en noir et blanc, trois jeunes femmes, étudiantes en mini-jupe, cheveux au vent, tout sourire, dans le Kaboul de 1972. Une photo signée Laurence Brun, qui ne manque jamais de rappeler à celles et ceux qui n'ont pas hésité à faire de cette photo un cliché, une image un peu figée de la supposée liberté des femmes pendant ces années, bah que c'était un petit peu plus compliqué. En réalité, cette photo, qui aurait même été utilisée par un conseiller de Donald Trump pour convaincre le président de maintenir les troupes américaines en Afghanistan, n'a rien de figé. Elle est tirée d'un reportage intitulé « Femmes afghanes, entre tradition et modernité » et ne va pas sans les 39 autres photos qui composent la série, où l'on comprend que le style vestimentaire varie considérablement, selon si on se trouve à la campagne ou en ville, selon le quartier de la capitale, selon le niveau de vie et l'éducation auquel une minorité de femmes ont accès. Le problème de cette photo, qui montre effectivement à l'époque la coexistence de modes de vie différents, c'est qu'on en fait parfois un étendard, comme si c'était la norme, le modèle, l'âge d'or oublié. On ne dit ni les disparités, ni la violence qui s'exerçait sur ces femmes à l'époque, ni leur lutte surtout qui était déjà à l'œuvre et que raconte notamment cette photo si l'on prend la peine de la contextualiser. Le problème des photos, c'est qu'elles ont tendance à tout figer, tout réduire, tout simplifier, même celles qui sont en mouvement.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est née dans les années 70 en Afghanistan, fondatrice de l'association Afghanistan Libre qui œuvre depuis 25 ans pour que les femmes afghanes accèdent aux droits fondamentaux. Ancienne diplomate, sa volonté inébranlable lui a valu le surnom de l'insolente de Kaboul. Presque deux mois après le retour des talibans au pouvoir et le retrait des troupes américaines, elle vient nous parler de la situation des femmes afghanes au cœur de cette crise. Bonjour Shekeba Hashemi.
Bonjour.
Merci beaucoup
d'être
avec
nous.
Merci
à vous, Augustin.
Ce matin, tout d'abord, cette si belle photo qui a été massivement relayée sur les réseaux sociaux, mais aussi utilisée, instrumentalisée parfois pour le pire, vous la connaissez bien, vous la connaissez même intimement, Shekeba.
Oui, je la connais bien parce qu'une des jeunes femmes est quelqu'un de ma famille, une cousine de ma mère ou une de ses tantes, je ne sais plus. En tout cas, je rebondis un peu ce que vous avez dit parce que il y a aussi, j'aurais préféré plein d'autres photos de cette même période. Oui. Par exemple, dans la maison de la radio à Kaboul, où les femmes et les hommes étaient côte à côte pour travailler. Donc ça existait, ça aussi. Ou à la télé afghane.
Ça raconte quand même le rêve d'une émancipation possible pour vous ?
Bah, ça raconte ce que l'on voit pas aujourd'hui, malheureusement. C'est-à-dire que oui, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Cette photo, on aurait pu la prendre dans un autre coin de Kaboul ou dans un autre coin de l'Afghanistan. Et c'était des femmes couvertes, etc. Mais ça raconte au moins que ça existait, que c'était là et qu'aujourd'hui, on n'a plus tout ça.
Comment expliquer, Shekeba Hashemi, qu'aujourd'hui, la situation des femmes soit plus critique encore qu'il y a 50 ans ?
Mais comme un peu partout, moi je fais partie de ces femmes, malheureusement je suis l'exemple vivante que j'ai vu à la fois le basculement tout d'un coup de ce qui existe et tout d'un coup ça ne l'est plus, et généralement ce sont les femmes d'abord, et quand vous regardez un peu partout dans le monde, les révolutions, les printemps arabes, les révolutions, etc., les changements de régime, c'est toujours sur les femmes que ça tombe, et moi je pense toujours à cette petite phrase qui m'avait toujours fait rendu si triste, c'était au moment où les Russes sont partis d'Afghanistan. Dans les années 80, on a quand même réussi à mettre les Russes dehors, juste avant la chute du mur de Berlin. Au moment où les Russes sont partis, que la résistance afghane qui s'est battue contre un ennemi pendant 20 ans est arrivée au pouvoir, la première question était de savoir si la speakerine à la télé allait porter un foulard ou pas. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me reste à travers la gorge en me disant, mais en fait, ça veut dire qu'on a tout fait, tout reconstruit, tout le pays était déjà libéré pour qu'on en arrive à se poser cette question-là, si cruciale. Donc c'est un peu partout dans le monde, on le voit, hein, dès qu'il y a un changement de régime, on s'attaque toujours au statut des femmes.
Pourquoi je suis parti d'une image ? Parce qu'il se trouve que c'est loin d'être anecdotique. Après le retrait des troupes américaines, des images de femmes sur des publicités, par exemple, ont été recouvertes, effacées des rues de Kaboul. Qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Shekeba Hashemi ?
Bah, ça nous dit, en fait, la suppression de l'image, de l'existence de la femme, de la société. C'est clair que nous sommes aujourd'hui dans un monde d'images. Donc, c'est vrai, une photo, une image, ça nous parle beaucoup plus. Et d'ailleurs, j'en suis très contente, parce que les talibans 96-2001, ce sont les mêmes, mais le monde en 2021 a changé. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux qui font que nous sommes en contact direct au quotidien avec ces femmes, ces jeunes filles, pour vivre l'horreur avec elles au quotidien. Et l'image de les voir supprimées d'une rue à travers des photos, c'est pas tant qu'on les couvre, peu importe. Ça veut dire qu'en fait, on supprime la femme de la société afghane totalement. Et elles sont effacées, emmurées vivantes.
Quand on est femme aujourd'hui, quel est le prix de l'émancipation ?
En Afghanistan, vous voulez dire ? Quand on est femme aujourd'hui, c'est déjà une grande tristesse pour les parents, parce qu'on se dit comment je vais faire avec cet enfant. comment on va faire le prix, c'est qu'à 10 ans, ces commandants talibans viennent vous enlever pour vous marier de force avec un des combattants. Le prix, c'est de ne jamais exister. Le prix, c'est de jamais voir l'extérieur et l'espoir de ce qui existe en dehors de vos quatre murs de la maison.
Le prix, c'est de mourir si on se rebelle.
Le prix, c'est de mourir si on se rebelle, mais celles qui l'ont déjà vécu, elles sont prêtes aujourd'hui à mourir plutôt que de revivre.
Justement, un peu moins de 2 mois après le retour des talibans au pouvoir, qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes que vous parvenez à joindre ou qui parviennent à vous parler ?
On parvient à se parler régulièrement et quotidiennement parce que, d'abord, vous savez, avec cette question terrible qui est « Pourquoi tu nous as fait ça ?» 20 ans, les pousser à exister, à créer des associations, à s'émanciper, à se former, à étudier, à devenir quelqu'un. Et déjà, c'est cette question-là où on a beaucoup de mal à répondre. Pourquoi nous avoir fait ça alors que tu savais que c'était qu'on allait finir comme ça? Ce qui est pas vrai parce que je ne savais pas, tout comme nous, personne. Et on parvient aussi à vivre tout ce qu'elles vivent au quotidien parce que c'est comme cette image terrible que je vous raconte là juste, c'est pas une image, je vous la raconte, c'est quand la semaine dernière j'étais en ligne avec Nouria qui manifestait dans les rues de Kaboul et avec son WhatsApp et que j'entendais des tirs et que je lui ai dit maintenant tu arrêtes, ça suffit, tu rentres et qu'elle me retourne son WhatsApp pour que je regarde les combattants avec leurs fusils sur elle et que là elle me dit, elle me parle à travers le WhatsApp, derrière le WhatsApp en disant de toute façon tu nous a poussé pendant 20 ans d'exister, plutôt mourir que revivre ce qu'on a déjà vécu. Et là, j'ai raccroché aussitôt par peur, panique, de me dire « je ne veux pas assister à ça ». Heureusement, Nouria est vivante, elle ne s'est pas fait tirer ce jour-là, mais ses autres collègues, oui. Et donc ça aussi, c'est terrible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit tout ça avec elle. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui, Augustin, et qu'on continue à intéresser les gens, c'est que aujourd'hui, par exemple, en France, on vit, tout le monde vit à travers les réseaux sociaux, la détresse des femmes afghanes, oui, que nous n'avons pas pu voir en 96, quand les talibans, les mêmes, sont arrivés à Kaboul.
Mais c'est bouleversant, ce sentiment d'impuissance, cette culpabilité que vous avez, chez Keba Hachemi, vous qui êtes afghane. Aujourd'hui, concrètement, parce que vous les aidez, comment est-ce que vous parvenez à leur venir en aide? Qu'est-ce que vous faites?
Déjà, il faut les écouter, les entendre. Il faut certainement pas ne pas répondre parce que ça veut dire qu'on coupe et qu'on fait comme cette dernière image, puisqu'on en est à parler d'image, Augustin, qui me fait encore pleurer. C'est ce dernier soldat américain qui monte dans cet escalier, oui, de l'avion et qu'on ferme comme si les 38 millions d'Afghans n'existaient pas, 20 millions de femmes. Moi, déjà, je réponds. Et alors, c'est vrai que c'est un vrai exercice d'insomnie parce que je réponds nuit et jour aux appels, pour être là, pour essayer de comprendre, pour savoir comment on peut faire. Dans un premier temps, on a beaucoup fait aussi changement de maison pour qu'elles ne puissent pas être identifiées. Donc essayer de changer, leur fermer le bureau, les faire déménager. C'est plus facile dans Kaboul, où il y a un petit côté inconnu parce que c'est une grande ville, que dans les provinces où nous avions Afghanistan libre, toutes nos écoles. C'est plus compliqué là.
Vous êtes parvenu à rapatrier certaines femmes ?
On a réussi à rapatrier personne. De notre ONG. Nous sommes une quinzaine d'ONG françaises dont je fais partie d'un comité qui s'appelle le COFA et nous n'avons pas réussi dans la liste des Afghans rapatriés, nous n'avons pas réussi à rapatrier des personnes qui travaillaient pour nos ONG depuis plus de 20 ans.
Ce que vous nous dites avec le retrait des troupes américaines le 11 septembre dernier, c'est un sentiment d'abandon, un sentiment de trahison?
C'est un sentiment de trahison parce que c'est du déjà vu. Et puis il y a cette phrase que je déteste qui est tout ça pour ça. C'est-à-dire on est venu en 2001. On est venu pour changer les choses. Et puis on est reparti en 2021, juste cet anniversaire terrible, 20 ans après.
Mais vous dites souvent que la communauté internationale n'a pas tenu ses promesses vis-à-vis de l'Afghanistan chez Keba Hachemi, alors même que des milliards de dollars d'aide ont été versés pendant 20 ans. En fait, cet argent, à quoi il a servi ?
Écoutez, moi, ce qui me choque aujourd'hui et qui me met en colère, c'est que tout d'un coup, comme on a décidé qu'on partait de l'Afghanistan, quand je dis « on », c'est la communauté internationale, on se trouve des excuses. Oui, le gouvernement était corrompu, je suis d'accord, oui, je suis la première à avoir démissionné. Oui, on a dépensé beaucoup d'argent, on n'a pas pu, etc. Mais pourquoi on ne l'a pas dit tout ça pendant qu'on y était, pour essayer d'améliorer, pour essayer de faire une meilleure stratégie de sortie? Moi, je ne suis pas là pour dire « il faut que... » éternellement, les Américains ou les Européens restent en Afghanistan, l'armée étrangère reste en Afghanistan. C'est pas ça le but, c'est de dire pourquoi tout ce que vous dites aujourd'hui pour nous faire avaler la pilule de la sortie si brutale de l'Afghanistan, pourquoi on l'a pas dit pendant toutes ces années où on a travaillé avec les Afghans?
C'était la raison de votre démission, d'ailleurs, vous l'avez dit, de vos fonctions de ministre conseiller auprès du président Hamid Karzai. Comment ça se fait qu'on ait laissé faire, malgré les signalements, malgré les cris d'alerte, malgré la force de votre démission, par exemple?
Exactement, je pense que je devais être là. La première femme diplomate du régime libre en 2001 et la première en 2009 à avoir démissionné.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la communauté internationale précisément ?
Aujourd'hui, ce que j'attends, en fait, si vous voulez, c'est déjà, il faut qu'on arrête de prendre les Afghans pour des cons, pardon de parler comme ça. Il faut déjà qu'on arrête de se justifier et de donner les mauvaises informations. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Aujourd'hui, c'est une question de responsabilité. Je l'apprends à ma fille de 11 ans et je le dis aussi pour nos dirigeants, il faut prendre nos responsabilités.
C'est ce que j'allais vous demander au président Macron qui a accordé une interview exceptionnelle ce matin à Léa Salamé sur France Inter. Qu'est-ce que vous dites ?
Ce que j'ai dit au président Macron, ça s'adresse aussi à toute l'Europe. C'est quelque chose d'un peu plus global, c'est de dire quand est-ce qu'on aura une vraie politique internationale européenne ? Quand est-ce que toutes ces institutions, le Parlement, le Conseil, la Commission, vont servir vraiment quand il y a une crise internationale à l'autre bout du monde ? Quand est-ce qu'on va arrêter de suivre aveuglément une décision américaine et qu'on n'est pas capable en tant qu'Europe de mener une politique étrangère propre à l'Europe, celle à laquelle je crois, moi, française et européenne, à toutes ces valeurs universelles. Et quand est-ce qu'on va se fermer les yeux, se prendre l'excuse de l'ingérence ? C'est pas de l'ingérence, il y a des valeurs universelles. L'Europe a été construite sur des valeurs, ces valeurs universelles. Et aujourd'hui, dans le monde, comme là, le cas de l'Afghanistan, nous avons besoin de cette présence-là, nous avons besoin de la responsabilité européenne en Afghanistan.
On va reparler ensemble, évidemment, chez Keba, de tout cela juste après la culture et son actualité. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 5 octobre ?
Ce soir, de 20h à 22h, une grande soirée musicale en direct pour faire vibrer les voix et les combats des Afghanes.
Avec les Afghanes toute la journée, notre antenne en partenariat avec Combini fait résonner la voix, les luttes, les espoirs des femmes afghanes. Une journée manifeste qui s'accompagne de l'expo Beauty Amid War, déployée à la Maison de la Radio et proposée par la photographe Fatima Hosseini. Ce soir enfin diffusé en direct du 104 à partir de 20h, un événement exceptionnel présenté par Rebecca Manzoni et André Manoukian, réunit des artistes et militantes afghanes et françaises comme Mashal Arman, Émilie Loiseau ou Massoud Hassanzada pour une nuit de dialogue solidaire, musical, joyeux You Go Girls. Vers l'infini et au-delà, c'est aujourd'hui que va officiellement débuter le premier tournage de film dans l'espace. Le réalisateur russe Klim Shipenko et l'actrice Yulia Peresil vont s'envoler vers la station spatiale internationale pour un séjour de 12 jours afin de tourner leur long métrage, un film baptisé provisoirement Vizov, le défi ou l'appel en russe sur une femme médecin envoyée en orbite pour sauver la vie d'un cosmonaute blessé. La NASA a quant à elle annoncé qu'un projet du même genre était en développement avec Tom Cruise qui a une bonne taxe carbone, Tom. Et si c'était elle qui avait cassé Internet hier ? 230 000, c'est le nombre record de tickets vendus en pré-vente pour la prochaine tournée de la Divine Farmer. Et tout cela en à peine 3 jours, intitulé Never More 2023. Habilement teasé sur les réseaux sociaux pendant des mois, le show se déploiera dans 7 stades pour 9 concerts déjà légendaires à partir du 3 juin prochain. Mylène s'arrêtera notamment pour 2 soirs au stade de la Beaujoire à Nantes, début juin, et au stade de France, fin juin, début juillet, pourvu que ce soit doux.
Mais tous les jours, ou presque, on a l'impression qu'il y a un prix qui est décerné.
Et enfin, les divins prix, Caroline de Mulder et Léo Barthe sont les heureux élus du prix SAD 2021. Ex aequo, ils ont été sacrés respectivement pour Manger Bambi, un anti-conte de fées à l'air Tinder paru chez Gallimard, et Princesse Johanna, une plongée fétichiste dans l'univers des Pony Girls, publiée aux éditions de la Musardine. Dans le même temps, un grand prix SAD a été décerné à l'écrivain pornographique Espar Beck pour l'ensemble de son œuvre, tandis que des hommages ont été rendus à Guillaume Dustan et à la femme de lettres Gabrielle Wittkob-Ménardeau. C'est beau. Et la militante franco-afghane Shekeba Hashemi, invitée de Boomerang ce matin pour cette journée spéciale, on le disait, consacrée aux femmes afghanes. Shekeba Hashemi, quand est-ce que vous avez su que votre combat serait celui du droit des femmes ?
Je crois que j'ai su ça à 11 ans, quand je me suis retrouvée toute seule dans ces montagnes avec ce passeur, et que ce passeur m'a interpellée et que je représentais tout ce qu'il détestait, la petite fille bourgeoise de Kaboul, qui fuyait vers un avenir meilleur. Et que ce jour-là, quand je l'ai regardé, je pense que j'ai décidé que plus jamais aucun homme me parlera sur ce ton-là, et que plus jamais j'assisterai à une scène où un homme parlera comme ça à une femme.
Il faut revenir aux origines. Vous êtes né au milieu des années 70. Dans quel Afghanistan est-ce que vous avez grandi ?
Alors moi, je suis née qu'avec la guerre, donc ça, il faut le savoir. Aujourd'hui, ma génération, on n'a connu que la guerre, donc oui, 45 ans de guerre en Afghanistan. J'habitais dans une très jolie maison à Kaboul, entourée de rosiers, mais avec les tirs de roquettes, parce que c'était l'invasion soviétique à l'époque.
Oui.
Et puis, il se passait un truc rigolo et triste en même temps chez nous, c'est qu'au fur et à mesure que mes frères atteignaient l'âge de 17-18 ans, ils disparaissaient de la maison et on nous racontait pas trop pourquoi. C'est parce que ma maman les envoyait vers la France pour éviter qu'ils soient enrôlés dans l'armée soviétique. Donc ils fuyaient, donc il fallait pas parler. Et donc on voyait un membre de la famille disparaître au fur et à mesure.
Dans quelle mesure cette occupation soviétique a eu des conséquences qui expliquent en partie la situation où se trouve l'Afghanistan aujourd'hui ?
Bah, quand vous regardez sur une carte, la situation géopolitique de l'Afghanistan a toujours fait l'objet des convoitises. L'invasion anglaise, et puis sa position très montagnarde fait que c'est un peuple guerrier, donc on s'est jamais vraiment laissé faire. On a été quand même les premiers à mettre les Russes dehors en 88, juste avant la chute de mur de Berlin, parce qu'un pays entouré de montagnes, 85% de montagnes. Voilà, c'est vrai que cette position géopolitique a tout, d'ailleurs, ce qui fait aussi notre richesse aujourd'hui. On est le pays le plus riche en ethnie, en langue et en culture différentes, la route de la soie. Oui. Et même physiquement, d'ailleurs, ça se voit, on se ressemble pas, il n'y a pas un type afghan, on a tous les types physiquement. Et donc, c'est ça qui fait notre richesse et à la fois la convoitise. Et d'ailleurs, il y a une expression afghane très mignonne qui dit, à force d'être tellement hospitalier, on s'est toujours fait envahir. Parce qu'en plus, on garde toujours le sourire avec l'invité, que ce soit l'étranger ou l'invité et l'autre. Donc voilà, ça, c'est l'Afghanistan aussi, c'est notre richesse.
Quand est-ce que vous avez quitté l'Afghanistan? Il faut nous raconter. Vous aviez 11 ans, vous le disiez, vous êtes partie seule.
Non, en fait, je suis partie avec ma maman parce que elle voulait. C'était le moment où il fallait partir avec la petite dernière de 12 enfants. Tout le monde était déjà parti, plus ou moins. Et au premier checkpoint russe, le contrôle de ce minibus où on était censé arriver au pays d'à côté, le Pakistan, pour pouvoir ensuite nous enfuir vers la France, on s'est fait arrêter. Moi, je me suis fait arrêter parce que moi, petite fille bien éduquée de Kaboul, on m'avait appris qu'il fallait sourire, etc. quand on disait bonjour. Et la policière m'a dit bonjour et j'ai fait un grand sourire avec mes dents blanches alors que le passeur me faisait passer pour une nomade, sa petite nièce. Et donc, elle a très bien vu que c'était encore une fuite, les Russes, et voulaient pas qu'il y ait l'exode de l'Afghanistan. Et donc, je me suis fait arrêter. Ma maman est partie dans ce minibus avec l'autre passeur qui lui bouchait la bouche, comme ça, qui bâillonnait sa bouche pour qu'elle hurle pas, sa petite fille qui est descendue du minibus. Et de là a commencé pour moi deux semaines de marche avec ce passeur et d'autres adultes dans les montagnes afghanes, les plus hautes, que j'ai connues plus tard dans les cavaliers de Kessel en étudiant en France, dans toutes ces montagnes les plus hautes que je ne connaissais que de mon jardin de Kaboul. Je les voyais, mais j'avais jamais escaladé à 11 ans.
Vous le dites avec le sourire, Chekeba Hachemi, la peur que vous avez dû vivre à ce moment-là, quel sentiment est-ce que c'est pour vous encore aujourd'hui ?
Oh, je le dis avec le sourire parce que d'abord j'ai jamais eu vraiment peur, je pense. Là maintenant, je le dis maintenant, mais à l'époque, je pense que je me rendais pas compte. Et vous savez, on a quelque chose en chacun de nous. Je l'ai vu même à 47 ans, hein, 15 nuits d'insomnie, on y arrive en fait. C'est-à-dire que on a, je pense, des forces en chacun de nous et je le souhaite à personne hein, de vivre ces forces-là et d'aller au-delà de nos limites. Et là, je pense que la petite fille de 11 ans avait une espèce de rage de survie pour retrouver sa maman. N'oublions pas non plus pourquoi, après mon combat pour l'éducation, c'était une petite fille éduquée, d'une famille éduquée, cultivée. Donc oui. Ça, c'est important. C'est-à-dire, quand même, elle savait ce qu'elle valait. C'est pas une petite fille des montagnes et analphabète. D'où mon combat toute ma vie. Je pense que ça a aidé aussi de savoir et d'être éveillée. Et puis, je pense qu'on n'a pas le choix, en fait. On suit. Et là, j'ai suivi. Il y avait une rage interne en moi qui disait, j'arriverai vivante.
Vous l'avez encore, cette rage ?
Ah oui, ça ne m'occupe jamais.
Pourquoi la France ? Chekeba Hachemi, qu'est-ce que ça représentait ?
Mon père, qui n'est jamais venu en France, qui était un haut fonctionnaire et qui se battait pour les droits de l'homme en Afghanistan et pour les plus démunis, pour lui, la France, c'était le pays des Lumières, comme toute l'élite afghane. Et il avait voulu absolument que ses filles et ses fils aillent dans les deux lycées français de Kaboul. Parce que c'était l'élite, parce que la France, c'était la démocratie, les valeurs universelles, parce que c'était Victor Hugo aussi. Et parce que, voilà. Et donc, mes frères ont choisi forcément ce pays-là, en hommage à ce père qui n'est plus là, qui est décédé quand j'avais 2 ans, pour rendre hommage à ce père. Mais le premier de la famille est parti boursier du gouvernement français avant l'invasion soviétique pour pouvoir faire ses études en France et revenir reconstruire ce pays. Et pour nous, la France, c'était ça. C'était la démocratie, l'ouverture, le savoir.
Et comment vous avez été accueillis ?
Alors, il faudra aussi replacer les réfugiés afghans dans le contexte des années 70-80. À l'époque, les Afghans étaient le seul peuple qui se battait contre le bloc soviétique, la guerre froide. Et à l'époque, il était bon et il était bien d'être réfugié afghan. On était mieux accepté qu'aujourd'hui parce que nous étions le seul peuple qui nous battions contre l'ennemi de l'Europe et de l'Occident qui était le bloc soviétique. Donc, arrivé en France, on était mieux accueillis, on avait plus de facilité pour avoir les papiers de réfugiés politiques. On était moins nombreux. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que ce soit les Afghans de l'époque ou maintenant, le fait de vivre ensemble, nous, avec toutes les cultures différentes et les langues différentes, on a une capacité qui peut être parfois négative de nous intégrer à une vitesse grande V. Pourquoi je dis négatif ? Parce que quand, jeune militante de 20 ans, j'ai voulu réunir la diaspora afghane, je me suis rendu compte qu'en fait, j'arrivais pas. Les Afghans étaient mélangés avec tous les Français et c'était formidable aussi.
Mais cette question de l'accueil, je voulais vous la poser parce que vous l'avez vécu. Fin août, en l'occurrence, l'actuel président du Conseil, le Premier ministre slovène, Janez Janša, affirmait que c'était pas le devoir de l'Union européenne d'aider et de payer tous les gens de la planète qui fuient au lieu de lutter pour leur pays. Cette phrase d'une extrême violence, qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous ?
Moi, ça inspire qu'il va rappeler l'histoire de son propre pays à ce monsieur et de lui rappeler ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale dans son propre pays et comment, moi je pense que on va pas se mettre en colère parce qu'on entend des aberrations tout le temps. Vous savez, quand vous êtes ancien réfugié ou afghan, etc., vous entendez toute la journée des aberrations. Il faut simplement rappeler à tout le monde, et c'est pour ça que j'aime, moi, discuter avec les jeunes et passer du temps avec des jeunes en France, leur rappeler l'histoire, qu'on a vécu ça aussi, ça fait partie de notre histoire aussi en France, d'avoir accueilli des gens, que les Français ont été accueillis dans d'autres pays pendant les dernières guerres et que ça fait juste partie de l'humanité en fait.
On va reparler évidemment ensemble de lumière, d'humanité, de femmes, juste après un hymne porté par Néné Chéri en 1996. Vous êtes sur France Inter avec Chekeba Hachemi. Vous écoutez Boomerang avec les Afghanes.
Boomerang, Augustin. Augustin Trapenard.
Elle a ce sourire qui vous donne envie d'y croire, hein, ce regard qui vous fait comprendre qu'elle vous lâchera pas. Solaire, capable aussi bien de rire que d'autres choses sans doute, tout en bleu. Ce matin, bleu espoir, me dit-elle, l'activiste fondatrice de l'association Afghanistan Libre, Chekeba Hachemi, invitée de Boomerang pour cette journée spéciale sur France Inter. Et pour revenir quand même sur un bilan, celui de votre association, à quel moment est-ce que vous avez compris que votre travail portait ses fruits, que les droits des femmes pouvaient progresser en Afghanistan?
Écoutez, moi j'ai créé l'Afghanistan Libre au moment où les talibans sont rentrés dans Kaboul en 96. Donc je devais partir quelques jours plus tard, ce voyage ne s'est jamais fait à cette date-là, heureusement d'ailleurs. Et puis très vite, je me suis transformée en militante à l'époque.
Vous étiez super jeune.
J'étais très jeune et je suis toujours jeune. Hein, j'ai toujours cette volonté de pas lâcher. C'est vrai que voilà. Après le militantisme, très vite, de ce dont je suis très fière, c'est que le premier lycée pour filles qui va de CP à terminale, toute construite en pierre, en plein village de Vallée du Poncher où toutes les maisons sont en torchis en terre, je l'ai faite avec la première pierre qui a été mise à mes côté avec le commandant Massoud. Donc ça a toute son importance parce qu'à l'époque, il a démontré, alors qu'il détenait cette vallée de 120 kilomètres libres, que l'éducation des filles avait de l'importance pour lui. J'ai toujours fait les choses en Afghanistan avec des symboliques, avec des gestes et avec l'implication des Afghans eux-mêmes. Jamais voulu révolutionner quoi que ce soit. Toujours rester dans la vitesse des Afghans. Et quand on a vu, quelques années plus tard, des bachelières de ce lycée qu'on a aidé à aller faire des études supérieures, sages-femmes, profs, codeuses, et qu'elles sont revenues dans le village exercer. Et là, vous dites, il y a une boucle qui se boucle, ça veut dire qu'on arrive quelque chose quand même.
Combien de femmes ont bénéficié des actions d'Afghanistan Libre?
Il y a eu plus de 300 000 filles qui ont été éduquées, il y a eu plus de 10 000 jeunes femmes qui ont été bachelières, qui ont suivi des formations supérieures grâce à Afghanistan Libre. Mais ma plus grande fierté, qui est en même temps ma plus grande tristesse aujourd'hui, était il y a 3 ans, nous avons lancé des formations de codeuses et digital codeuses en plein Vallée du Panchir et Parman, où les filles n'ont même pas vu d'électricité. Et grâce aux panneaux solaires, on a pu les former au métier d'informatique et l'ouverture vers l'extérieur. J'étais encore avec elle début août par Skype pour parler des programmes de coding de l'année d'après. Et le 15 août, c'est fini.
Silence.
C'est fini.
Au fond, la réussite d'un projet comme celui-ci, ça tient à quoi, Chekeba Hachemi?
Je pense à une grande volonté, plus que de l'argent, parce que ça fait 25 ans que sur mon front il y a écrit un peu mendiante vis-à-vis de mes amis. Mais je pense que c'est plus la volonté d'une pérennité. C'est-à-dire que aujourd'hui aussi, vous allez entendre, Augustin, plein de gens qui vont faire des choses en Afghanistan, etc., à distance, parce que c'est un peu un phénomène de mode.
Mais oui, cette émotion médiatique dont il faut parler, effectivement.
Exactement, c'est important, mais il faut connaître. Il faut s'appuyer sur des gens sur le terrain. Il faut s'appuyer sur des femmes qui se battent depuis longtemps et qui connaissent mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour elles, et s'appuyer sur elles et non pas décider à distance ce qu'on va faire avec elles.
Mais vous avez toujours su que c'était fragile, que rien n'était jamais acquis.
Vous savez, dans ma vie, tout est fragile. Vous savez, je vais vous dire un truc qui n'est plus un secret maintenant que tout le monde va nous écouter. C'est que chaque jour, je pense que c'est le dernier jour que je vis. Depuis ce jour de mes 11 ans dans ces montagnes, chaque jour, je considère que c'est le dernier jour. C'est pour ça que je me regarde une dernière fois dans la glace avant de me coucher pour me dire si je suis fière de moi. Et c'est important, et je crois que c'est ça qui me fait tenir, et c'est vraiment pas une blague. Chaque jour, se dire, est-ce que cette journée valait la peine d'être vécue? Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y en a beaucoup qui ne m'aiment pas, parce que je dis vraiment la vérité vraie, même si ça fâche. Ma seule limite, c'est de ne pas blesser des êtres humains. Ma seule limite, c'est l'humain, de ne pas le blesser. Mais je dis toute la vérité parce que je pense que on peut s'arrêter, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Cette phrase qu'on dit, vous savez, on est du bon côté de la planète, profiter, qu'on dit à nos enfants, attention, t'aurais pu, etc. Oui. Moi, je l'ai vécu les deux côtés. Donc après, c'est facile de relativiser quand on a vécu les deux côtés. Donc on en profite. Et chaque jour, on se dit, si je suis là, encore vivante et debout, ça veut dire que ça valait la peine et qu'il faut au moins que je transmette quelque chose et que je puisse utiliser cette énergie pour laisser au moins une petite trace, puisqu'on est toujours là.
En quoi est-ce que vous croyez, Chekeba Hachemi?
En là-haut, quelque chose qui réunit, je sais pas, l'universel. Je crois en l'humain, en fait. Toute ma vie, je n'étais guidée que de mes rencontres avec des belles personnes. Il y en a des mauvaises, mais c'est pas grave, ça s'efface à la rencontre des belles personnes. Je crois en l'humain et je crois qu'en chacun de nous, il y a quelque chose. Cette lumière qui est quand vous regardez quelqu'un et que vous n'êtes jamais vu avant et que tout d'un coup vous montez. Et si on faisait ça? Et si on montait ça? Et si on arrivait à faire en sorte que ceci bouge? Et ça, c'est formidable.
C'est sur votre voix et sur un texte que vous nous avez écrit que j'aimerais qu'on termine cette émission, si vous êtes d'accord, pour nous le lire, Chekeba.
Merci beaucoup. Merci, je vais lire ce texte.
On y va ?
On y va. Lorsque j'étais enfant, pendant l'occupation soviétique, ma mère a pris la décision de fuir l'Afghanistan car j'étais trop douée à l'école. J'avais en effet été sélectionnée pour partir en Russie, suivre la suite de ma scolarité. Je me souviens encore de mes livres de classe abandonnés dans le salon, ouverts sur une leçon pour faire croire aux soldats que nous n'étions pas loin. Je me souviens aussi de ce passeur hostile, menaçant, haineux et ignorant, quand je me suis retrouvée seule à 11 ans pour traverser les montagnes à pied. Bien des années plus tard, quand je suis revenue dans mon pays, c'était pour soutenir le commandant Massoud et me battre pour que les petites filles afghanes aient un avenir. Un avenir autre que celui d'être enfermées entre quatre murs, enfermées aussi dans leur ignorance. Lorsque les talibans ont fui, j'ai cru en notre victoire. Et j'ai développé pendant plus de 20 ans des programmes d'éducation des jeunes filles parce que, pétrie de culture française, je croyais que le savoir les protégerait et les libérerait. Aujourd'hui, Nouria, Laïla, Romila, Faouzia, Sheila, qui sont des mères, des filles, des sœurs, des tantes, qui sont étudiantes, enseignantes, sages-femmes, codeuses, journalistes, juges et bien plus encore, savent que je leur ai menti, que nous leur avons tous menti. La culture les a ouvertes sur le monde et le monde les abandonne à un enfermement d'autant plus terrible qu'elles ont connu la liberté et cru en leurs possibilités. Et elles savent désormais qu'elles devront se battre seules, que personne ne viendra à leur aide. Se battre avec leurs armes et leur volonté, avec leur courage et leur connaissance, avec leurs espoirs et leur désespoir aussi. Et le ventre vide de leurs enfants. Elles le feront. Et je continuerai à les aider autant que je peux.
Si vous les aidez, chez Keba Hachemi, elles sont pas seules ?
Nous ne sommes pas seules, non, nous ne sommes pas seules. Et elles tiendront debout et on tiendra toutes debout.
C'est une question que les auditeurs et les auditrices de France Inter vont nous poser tout au long de la journée. Comment aider aujourd'hui les femmes afghanes ?
Écoutez, il faut les aider à travers les structures qui existent depuis longtemps. Moi, j'ai Afghanistan Libre. Nous savons, dans un premier temps, ce que nous faisons, qui est le plus important, c'est de leur assurer leur salaire. Toutes les femmes qui travaillaient pour cette ONG Afghanistan Libre, il faut continuer à les payer. Parce que les routes sont fermées, les vols commerciaux ne sont plus là, que les denrées alimentaires ont augmenté de 10-20%. Et on oublie qu'aujourd'hui, sur les 38 millions d'Afghans, il y a plus de 25 millions qui vivent en dessous de seuil de pauvreté. Qu'elles résistent, qu'elles sont debout, qu'elles manifestent. Mais le ventre vide. Et il faut les aider à continuer à vivre pour pouvoir croire en ce lendemain meilleur. Après viendra les formations à distance, après viendront d'autres choses pour que la vie continue. Mais dans un premier temps, il faut les aider à vivre.
Ça passe par des dons d'argent ?
Ça passe par les dons d'argent, mais ça passe aussi par des initiatives comme celle-ci, comme aujourd'hui sur France Inter. Ne pas oublier, ne pas les abandonner. C'est formidable que tous les dimanches matins, nous assistions avec ce qui se passe des voix depuis Kaboul dans votre radio. Et il faut continuer parce que ce n'est pas un phénomène de zapping. L'Afghanistan existera encore demain.
Ça passe aussi, et il faut le rappeler, par le partage de ces émissions, par le partage de ces initiatives. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site de France Inter et retrouver 5 façons concrètes d'aider les Afghanes ainsi que la liste des associations qui œuvre pour l'avenir de ces femmes. Merci tellement, Chekeba Hachemi, d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci pour ces mots et pour l'action toujours, comme j'invite les auditeurs à soutenir votre association Afghanistan Libre. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers qui poursuit cette journée spéciale sur notre antenne dans son instant M.
Bah on est là, Augustin, puis vous et moi, on se retrouve demain.
Et vous vous écoute. Salut, à demain.